Radio Vatican, France-Afrique.
Amis auditeurs, à mesdames et messieurs, ravis de vous savoir l'écoute de Radio Vatican. Merci de nous rejoindre dans cette édition de notre programme. Nous sommes ensemble pour une vingtaine de minutes. Au Vatican, à l'occasion de l'inauguration de l'année judiciaire, le pape a reçu vendredi le tribunal de la route romaine. Le Saint-Père est revenu dans son discours sur la réforme de la procédure de déclaration de nullité du mariage. Plus des détails juste après les titres. La situation sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo reste préoccupante. La majeure partie de la ville de Goma est aux mains du groupe armé antigouvernemental du M23. Nommé mardi 28 janvier dernier, le nouveau gouverneur militaire de la province du Nord Kivu, le général-major Évariste Somo Kakule, avant le début de sa mission, a reçu la bénédiction de Mgr Melchisedek Sikuli Paluku, évêque de Butembo Beni, l'évêque congolais qui espère la paix pour son pays en cette année jubilaire. La guerre à l'est de la RDC préoccupe également l'ONU. Vendredi, l'Organisation des Nations Unies s'est alarmée des viols et exécutions accompagnant les combats. Des précisions dans l'actualité sociopolitique africaine. Goma, que le pape aurait dû visiter il y a 2 ans lors de son voyage apostolique en République démocratique du Congo. Le Saint-Siège suit attentivement ce qui se passe sur place. Vous entendrez le nonce apostolique à Kinshasa. Et nous terminerons cette édition de notre programme par le magazine consacré à l'actualité internationale de la semaine.
Radio Vatican, France et Afrique, Françoise Niamier.
Les membres du tribunal de la route romaine ont été reçus en audience vendredi 31 janvier au Vatican par le pape. En cette année jubilaire qui marque les 10 ans de 2 motu proprio par lesquels le pape a réformé la procédure de déclaration de nullité du mariage, François a rappelé l'esprit qui a imprégné cette réforme. Il les a exhortés à la prudence et à restaurer les relations interpersonnelles. Myriam Sandouno.
Le souci du salut des âmes a guidé la réforme, a indiqué le Saint-Père. La nécessité de modifier les normes relatives au processus de nullité du mariage avait été exprimée par les pères synodaux réunis en assemblée extraordinaire en 2014. Le pape a invité à porter un regard sur la douleur et l'espérance de tant de fidèles qui cherchent la clarté sur la vérité de leurs conditions personnelles et, par conséquent, sur la possibilité de participer pleinement à la vie sacramentelle. En réalité, a fait comprendre François, pour tant de personnes ayant vécu une expérience matrimoniale malheureuse, la vérification de la validité ou non du mariage est importante et ces personnes, estime l'évêque de Rome, doivent être aidées. Les règles établissant les procédures doivent garantir certains droits et principes fondamentaux, principalement le droit à la défense et à la présomption de validité du mariage. Le but n'est pas de compliquer inutilement la vie des fidèles, ni d'exacerber leur esprit de litige, mais seulement de rendre service à la vérité. Pour François, la réforme requiert 2 grandes vertus, la prudence et la justice, qui doivent être éclairées par la charité. Et pour terminer, il a exhorté la route romaine à contribuer à purifier et à restaurer les relations interpersonnelles.
La situation dans l'est de la République démocratique du Congo reste préoccupante. Les rebelles du M23 et leurs alliés rwandais contrôlent la majeure partie de Goma, la capitale du Nord Kivu, et progressent dans le Sud Kivu. Ce conflit qui dure depuis 30 ans s'est aggravé ces dernières semaines, occasionnant la mort d'une 100 personnes. Au nombre de celles-ci, le gouverneur militaire du Nord Kivu, le général Peter Thierry Mwami. Il est décédé jeudi 23 janvier dernier, touché par balle près d'une ligne de front à proximité de Sake, à quelques kilomètres de la ville de Goma. Nommé mardi 28 janvier par le président de la République, Félix Tshisekedi, le nouveau gouverneur militaire de cette province du Nord Kivu, le général-major Évariste Somo Kakule a reçu la bénédiction de Mgr Melchisedek Sikuli Paluku, évêque de Butembo Beni, une bénédiction avant le début de sa mission. Et l'évêque congolais qui reste confiant dans le Seigneur en cette année de l'espérance. Jean-Baptiste Malingué.
Le nouveau gouverneur sera provisoirement basé à Beni, le chef-lieu de la province, la ville de Goma, étant occupée par des rebelles et des troupes de l'armée rwandaise. L'évêque de Butembo Beni demande de prier pour le nouveau gouverneur et de le soutenir. En l'année jubilaire, année de l'espérance, Monseigneur Melchizedek Tshikouli a exprimé son espérance pour la paix dans le Kivu et dans toute la République démocratique du Congo. Des paroisses du diocèse de Butembo Beni ont été fermées à cause de la guerre.
Ses pères ont choisi de placer cette année jubilaire sous le signe de l'espérance parce qu'ils voient tout ce qu'il y a comme problème dans le monde. Des guerres, des déplacés, des catastrophes humanitaires, des inondations et qui poussent l'homme tout naturellement à se poser la question, est-ce qu'il y a encore des raisons d'espérer? Même là encore, nous devons croire que Dieu est encore là. Et qu'il agit et qu'il est capable de nous aider pourvu que nous soyons aussi disponibles à être comme Abraham, à croire contre toute espérance.
Jean-Baptiste Malenge Kalunzu pour Radio Vatican.
Partons à présent pour le Burkina Faso. Les défis du diocèse de Banfora au sud-ouest du pays sont nombreux. Présent à Rome à l'occasion du jubilé du monde de la communication, Mgr Lucas Sano, l'ordinaire du lieu, a bien voulu nous situer sur quelques-uns de ces défis. On l'écoute.
Nos défis, c'est vraiment continuer la première évangélisation, parce qu'il y a des populations qui ne connaissent pas encore Jésus-Christ. Et c'est pourquoi nous essayons d'ouvrir de nouvelles paroisses pour nous rapprocher des populations. À la création du diocèse, il n'y avait que 4 paroisses. Mais actuellement, nous avons 10 paroisses. Nous comptons encore en ouvrir d'autres. Et travailler également à l'éducation, parce que c'est la base de tout. Et nous avons le projet d'avoir dans chaque paroisse une école primaire, un établissement secondaire et peut-être pour cette année, commencer à prévoir une université pour que les enfants puissent poursuivre vraiment leur éducation. Parce que nos écoles, c'est vraiment des écoles d'excellence et ce serait dommage qu'ils ne puissent pas poursuivre. Et surtout, un autre défi, c'est l'auto-prise en charge. Parce qu'il faut que nos communautés puissent se prendre en charge. Nous avions, par le passé, de l'aide venant de l'Occident, en particulier des OPM et des églises occidentales. Cette aide diminue et nous voyons qu'elle va disparaître. Alors, il faut que nous formions nos communautés à se prendre elles-mêmes en charge.
Mgr Lucas Sano, évêque du diocèse de Banfora, au Burkina Faso. L'actualité sociopolitique africaine reste dominée par la guerre à Goma, dans l'est de la République démocratique du Congo. Le conflit entre l'armée congolaise et le groupe armé antigouvernemental du M23 s'accompagne de nombreux viols et exécutions sommaires. L'ONU a exprimé vendredi son inquiétude face à une escalade dramatique dans une région meurtrie par des décennies de conflits impliquant de multiples groupes armés. Dans les zones sous contrôle du M23 au sud de Kivu, comme Minova, le porte-parole du Bureau des droits de l'homme de l'ONU, Jérémy Lawrence, a indiqué que le groupe avait occupé des écoles et des hôpitaux, forcé les déplacés à quitter les camps et soumis la population civile à des enrôlements forcés et au travail forcé. De son côté, l'armée ougandaise, UPDF, a annoncé vendredi qu'elle allait renforcer ses défenses dans l'est de la RDC. Dans un communiqué, l'UPDF précise qu'elle adoptera une posture défensive avancée jusqu'à ce que la crise soit passée et que l'objectif est de dissuader et d'empêcher les nombreux autres groupes armés négatifs opérant dans l'est de la République démocratique du Congo d'exploiter la situation et de protéger et de sécuriser les intérêts de l'Ouganda. Le président tchadien Mahamat Idriss Déby a salué vendredi le départ définitif et complet des forces françaises stationnées au Tchad au cours d'une cérémonie organisée à N'Djamena pour ce retrait historique marquant aussi la fin de la présence française au Sahel. « Nous ne rompons pas notre relation avec la France, mais nous mettons un terme à la dimension militaire de cette coopération », a déclaré le chef de l'État devant des militaires tchadiens et devant le corps diplomatique sur la base où flottait le seul drapeau tchadien. protéger la population civile de Goma, prier pour le rétablissement rapide de la paix et de la sécurité en République démocratique du Congo, préoccupation majeure du Saint-Siège au milieu des tragiques événements dans le plus grand pays catholique d'Afrique. L'appel du pape lancé en ce sens mercredi dernier, en marge de l'audience générale, a été reçu avec plein de gratitude à Kinshasa. La nonciature apostolique à Kinshasa fut d'ailleurs le théâtre, il y a 2 ans, tout pile, d'une rencontre très émouvante entre l'évêque de Rome et 4 victimes d'exaction du M23 au cours de son 40e voyage apostolique dans ce grand pays d'Afrique centrale. 2 ans après, la violence inhumaine, alors déchaînée, semble plus que jamais d'actualité, ce que regrette l'actuelle annonce, Mgr Mitja Leskovar, et nous expose les uniques sorties de crise possibles.
La situation à l'est du pays est vraiment très, très délicate et grave aussi, dans le sens qu'il y a des victimes. On m'a parlé aussi des corps de morts qui sont sur les routes. Il y a aussi encore de plusieurs côtés des coupes des armes. Ça continue en général. On peut dire que ce n'est pas trop, mais c'est quand même grave, dans le sens que pas tous les parts de la ville de Goma sont intéressés. Et ça, c'est une bonne chose. Ça donne quand même la possibilité à la population de satisfaire leurs besoins essentiels et de se trouver aussi dont ils ont besoin pour la nourriture, aussi les choses élémentaires. Et quand même, c'est toujours une situation de siège. C'est une situation grave, très délicate. Ça peut aussi encore se développer dans le sens indésirable des conflits plus vastes. Ça, c'est la situation dans la cité de Goma. Il faut penser aussi au reste des territoires. Il y a des bâtiments encore, avec tout ça que ça comporte pour la population locale. On espère qu'on trouve plutôt possible qu'on se remette à table et chercher les solutions plutôt diplomatiques en dialogue avec tous les parts concernées et n'utiliser plus la violence.
Comment ont été reçues sur place les paroles du pape ce mercredi à l'audience générale par les autorités et la population?
Ils ont été reçus avec gratitude. Il y a eu aussi la Madame Première Ministre, il y a eu aussi plusieurs évêques qui m'ont remercié pour ces paroles des papes qui sont tombés vraiment dans une situation difficile, soit pour la part est des territoires nationaux, soit aussi pour la capitale où il y a eu des désordres. Et donc cette exhortation-là au respect de tout le monde, des civils et de l'ordre public et de la propriété, sont été très 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 appropriées, aussi très bien reçues.
Comment dans ce contexte le Saint-Siège pourrait-il accompagner les besoins humanitaires criants dans l'Est?
Donc actuellement, ça n'est pas vraiment facile parce que les communications, surtout pour envoyer les choses, les possibilités sont très limitées. C'est une zone de guerre. Donc déjà, sans la guerre, ce serait parfois difficile parce que les routes ne sont pas bonnes ou parfois elles sont non praticables pour les voitures. On passe parfois seulement avec les motos ou à pied. Et donc, ça, c'est déjà un problème. L'autre problème, c'est aussi, n'est pas facile savoir quels sont les besoins concrets de quel côté. La troisième difficulté peut être la plus grave. Les nécessités sont quand même énormes. Si on pense 6-7 millions de déplacés en RDC qui ont besoin d'assistance, il y a bien sûr les Nations Unies et des autres organismes et beaucoup d'ONG qui les assistent, mais aussi quand même l'Église, les églises, entre eux aussi l'Église catholique, bien sûr. Mais le besoin est tellement grand et que c'est presque impossible de venir en aide à tout le monde qui a besoin de l'aide. Quand même, ça ne veut pas bien sûr dire qu'on ne peut faire rien. On peut faire des choses, il faut faire. Pour ma part, pour la part de l'annonciature apostolique à Kinshasa, bien sûr, surtout à travers les institutions de l'Église, soit les Caritas, soit les diocèses directement, soit les congrégations religieuses, on peut faire des choses, on peut faire arriver de l'aide, oui, même si parfois ça devient très difficile logistiquement.
Vous venez de suivre le nonce apostolique en République démocratique du Congo, Mgr Mitja Leskovar. Il était interrogé par Delphine Allaire. Terminons cette édition par notre magazine consacré à l'actualité internationale de la semaine, et c'est avec Fabrice Bangendekere.
Eh bien, commençons ce tour de l'actualité internationale avec le continent américain. Aux États-Unis, les sauveteurs continuent de fuir vendredi les eaux du Potomac pour repêcher tous les corps des 67 tués dans la collision au-dessus de Washington d'un avion de ligne et d'un hélicoptère militaire. Selon les médias américains, 40 corps avaient été repêchés jeudi soir, 24 heures après cette catastrophe qui n'a laissé aucun survivant, la pire aux États-Unis en deux décennies. Les deux boîtes noires du bombardier ont été retrouvées jeudi soir dans les eaux glacées du fleuve et les enquêteurs cherchent à comprendre les causes d'un accident qui, selon le président Trump, aurait dû être évité. Cela pourrait être l'épilogue de la spectaculaire escalade des tensions diplomatiques entre les États-Unis et la Colombie. Mardi, 200 Colombiens expulsés des États-Unis ont été rapatriés dans leur pays d'origine par des avions affrétés par le gouvernement colombien. Un retour effectué dans des conditions dignes, a souligné le président Gustavo Petro, deux jours après avoir refusé le rapatriement dans des avions de l'armée américaine, ce à quoi Donald Trump avait répondu par des sanctions. Les précisions de William Gazo.
Menottés, attachés par des chaînes à la taille comme s'ils étaient des délinquants de haut rang. C'est avec ces mots que les 200 Colombiens expulsés des États-Unis ont dénoncé leurs conditions de détention et d'expulsion, lorsque le pays nord-américain a voulu les renvoyer une première fois en Colombie dimanche dernier. Le président colombien Gustavo Petro avait alors refusé d'accueillir les vols, dénonçant les conditions de voyage de ses compatriotes. Les 200 Colombiens ont finalement été rapatriés mardi par des avions spécialement affrétés par leur gouvernement. « Ils sont colombiens, libres et dignes dans leur pays qui les aime », a réagi Gustavo Petro à leur arrivée à Bogota. Ce retour sans encombre conclut un important épisode de tension entre les deux pays. Au refus de Petro d'accueillir les avions militaires américains, Donald Trump avait répondu par une série de sanctions contre le pays latino-américain, parmi elles l'imposition de droits de douane de 25 puis 50% sur les produits colombiens entrant aux États-Unis et la suspension de la délivrance de visas. Des menaces face auxquelles Gustavo Petro n'a résisté que quelques heures avant de trouver un accord avec les États-Unis, acceptant le retour des migrants colombiens.
Sur le continent asiatique, deux personnes ont été tuées dans une frappe israélienne qui a visé dans la nuit l'est du Liban, malgré un cessez-le-feu en vigueur depuis fin novembre entre Israël et le Hezbollah, a annoncé vendredi le ministère libanais de Santé. Le raid de l'ennemi israélien sur Janta a fait 2 morts et 10 blessés, a précisé le ministère. La Russie a accusé vendredi l'Ukraine d'avoir tué 22 civils dans un village russe conquis par les forces ukrainiennes en élargissant ainsi ses accusations de ce type contre Kiev. Le comité d'enquête russe qui a annoncé le 19 janvier l'ouverture d'une enquête pour meurtre d'au moins 7 civils dans le village de Rouskoye Porechoye a indiqué vendredi enquêter désormais sur le meurtre des 22 habitants de ce village commis selon Moscou entre septembre et novembre dernier. Du côté ukrainien, une attaque des drones lancée par la Russie a fait au moins 9 morts, dont 3 couples de personnes âgées, dans une zone résidentielle à Soumy, une localité de l'est de l'Ukraine proche de la frontière russe, ont indiqué les autorités ukrainiennes. Sur le continent européen, l'Allemagne vit un psychodrame politique en pleine campagne électorale avec un vote prévu au Parlement sur l'immigration. Mercredi, les conservateurs ont déjà voté avec l'extrême droite pour faire adopter de justesse une motion à la Chambre des députés visant à refuser l'entrée en Allemagne de tous les étrangers sans papier, une décision qui a brisé un tabou politique dans le pays et suscité une immense controverse. Les détails de Delphine Nerbollier.
C'est une journée historique qu'a vécu l'Allemagne hier. Après des décennies de barrages démocratiques au niveau fédéral, la droite classique, chrétienne-démocrate, a fait passer un texte avec le soutien de l'extrême droite. Il s'agit d'une résolution non contraignante qui appelle le gouvernement à modifier entièrement sa politique migratoire. Son adoption marque un tournant dans la tradition politique de la République. Historique, c'est justement le mot qui a été employé par l'extrême droite hier à l'issue de ce vote. Pour l'AFD, l'alternative pour l'Allemagne, le cordon sanitaire imposé autour d'elle est désormais tombé. Ses députés jubilaient hier dans l'hémicycle. Historique, c'est aussi le mot employé par la gauche et par les écologistes, mais dans un sens négatif. Pour le chancelier Olaf Scholz, la droite classique a trahi sa promesse de ne jamais coopérer avec l'extrême droite. Même critique de la part des églises catholiques et protestantes. Hier soir à Berlin, près de 600 personnes ont manifesté devant le siège de la CDU. Berlin, Delphine Nerbollier pour Radio Vatican.
Pour plus d'informations et de nouvelles, consultez notre site internet www.vaticannews.va.
Amis auditeurs, mesdames et messieurs, c'est ici que nous mettons un point final à cette édition de notre programme. Merci de votre aimable attention. À très bientôt.